Cuisin, 11e ombre sanglante. Le boucher anglais ou la lampe effrayante. Anecdote réelle. En exergue. Celui qui met un frein à la fureur des flots, c'est aussi des méchants arrêter les complots. Racine Attali. La nature ne produit heureusement que de loin en loin de ces monstres dont la férocité extraordinaire et les inclinations criminelles affligent autant l'humanité qu'elles confondent les méditations des plus subtils métaphysiciens. Will Bristol, né à Handerley, petit cours du côté de Devonshire en Angleterre, en est un exemple douloureux. Cependant, son père, juge assez aisé de ses cantons, et resté veuf de temps après son mariage, n'avait rien négligé pour corriger les dispositions perverses de ce fils unique. Avis doux et paternel, tendre remontrance, bons principes, éducation religieuse et éclairée, collège, université coûteuse, ce père infortuné n'épargna jamais rien pour amener Bristol à des sentiments d'honneur et de sagesse et dompter son naturel féroce. Effort inutile. Bristol, né pour les forfaits, sentit de bonheur pétiller dans son âme les premières étincelles du crime, et ennemi juré de tout ce qui revêtait des formes de l'honnêteté et de la vertu, loin de chercher à vaincre en lui ses odieux vices, il les considéra au contraire comme des degrés précieux qui devaient le conduire à une haute renommée. Sa vie au collège fut donc en deux mots celle d'un mauvais sujet, d'un vaurien incorrigible, qui par 100 tours sanglants se fait chasser des classes et devient non seulement l'objet du juste courroux de ses professeurs, mais encore celui du mépris et de la haine de ses camarades. Rentré dans les foyers paternels, Bristol, parvenu à l'âge de 20 ans, ne mit plus aucun frein à ses débauches, à ses infamies, se fit promptement guérir, périr de chagrin un père qui en était devenu inconsolable. Le voilà donc maître d'une assez belle fortune qui ne tarde pas à dissiper. Mais hélas, quels étaient ses compagnons d'ivresse et de dissolution? Jusqu'au valet du bourreau dont il recherchait la société avec une passion particulière, car tout ce qui avait rapport à l'effusion du sang humain flattait ses goûts affreux. Aussi le voyait-on assister avec avidité à toutes les exécutions des criminels, et s'il n'osait pas encore à cette époque se glisser jusque sur l'échafaud pour prêter son horrible ministère aux exécuteurs, c'est par un reste de honte qu'il arrêtait au milieu de son pays natal. Mais nous le verrons bientôt franchir des bornes plus sacrées. Sous un autre rapport, la nature n'avait pas conçu à demi en créant Bristol. Et c'était, si je puis me servir de cette figure, un des plus beaux coryphées du crime. Ayant à peine atteint 25 ans, notre héros offrait une taille gigantesque de 6 pieds 4 pouces, pieds nus, une constitution proportionnée, des yeux ardents et terribles, une chevelure, une barbe épaisse et une force prodigieuse qu'on ne pourrait comparer qu'à celle de ce fameux hanté que le vaillant Hercule fit périr du même supplice qu'il faisait souffrir aux voyageurs de la Libye, c'est-à-dire en l'étouffant dans ses bras. Avec un tel physique, Bristol, surnommé dans tout le comté de Devonshire l'Hercule de la Grande-Bretagne, en était devenu la terreur. Non seulement beaucoup de jeunes gens de famille avaient été victimes de ces duels, où sa grande supériorité dans les armes le rendait toujours vainqueur, mais encore dans Matrix, sa vigueur étonnante, à lutter corps à corps, l'avait mis d'une voix générale au rang des plus grands boxeurs de Londres. Ainsi, pour lui, porter des poids énormes, prendre un homme d'une corpulence démesurée, le lancer à 10 pas de lui sur une muraille et l'y briser comme un verre, se saisir du moyen de la roue d'une lourde diligence dans l'obscurité de la nuit, et d'un seul effort renversé, voiture et voyageurs et chevaux, tout cela n'était pour Bristol que de simples badinages. Son grand plaisir était aussi de faire gémir un cheval entre ses genoux, d'assommer un bœuf d'un seul coup de poing, et en pressant la main du plus vigoureux portefeuille de la capitale, d'en faire jaillir par la force de la pression le sang par les ongles. L'un de ses tours favoris était encore, à la manière de certains gladiateurs romains, de se ceindre le front d'une corde épaisse et de se gonfler les veines avec tant de vigueur qu'elle brisait cette même corde en éclats. Les nobles, les grands, les plus riches, milord, très curieux, très amateurs, comme on sait de luttes de joutes de toute espèce, ne cessaient donc pas de prendre Bristol pour le champion de leur pari. Londres y accourait en foule, et les guinées pleuvaient sur l'illustre athlète. Dans une seule circonstance, notre invincible gymnastique eut le dessous. Il s'agissait d'un défi dont la somme pariée entre deux seigneurs de la cour était considérable. Le premier prit Bristol, le second fit venir d'Écosse un des plus terribles montagnards que ce royaume ait produit. Sa stature était effrayante. Sa charpente osseuse paraissait à l'abri même de la balle et une fourrure épaisse couvrait tout son corps. Milord de Croton même eût été effrayé à sa vue. Jamais le sentiment de la crainte n'avait effleuré l'âme de ce nouvel atlas, et ses plus doux passe-temps, dans ces montagnes, étaient de s'emparer d'un seul saut des cornes du plus fougueux taureau, de le renverser d'un bras irrésistible, et dans cet état, de lui clouer en quelque sorte les cornes en terre, de manière à ce qu'il y fût captif. Ce fut ce terrible antagoniste que le duc de Northumberland, l'un des deux seigneurs, opposa au plus redoutable des boxeurs de l'Angleterre, et peut-être de l'univers entier. Le théâtre même de Drury Lane, disposé un matin avec le plus grand luxe à cet effet, les personnages les plus considérables de Londres s'y rendirent pour y être témoins de la lutte la plus étonnante qui ait jamais fixé les regards de la capitale. Les femmes n'y furent pas admises. La nudité complète des combattants ne permettait pas cette inconvenance. Le parterre avait été mis, comme au bal masqué de l'opéra, au niveau de la scène, et les spectateurs formaient autour de la reine un bel ovale qui plaçait tout le monde dans le point de vue le plus favorable. Une trompette annonça par quelques fanfares le commencement du combat, et deux espèces de héros d'armes ayant ouvert de droite et de gauche les portes du cirque, on vit s'avancer, d'un pas ferme et majestueux, les deux êtres les plus formidables de la création. Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'athlète écossais, velu comme un ours, et dont l'œil un peu cave étincelait à travers une barbe frisée, ressemblait plutôt à quelque animal féroce et bipède qu'à une créature humaine. On entend craquer ses dents comme l'effet d'une lourde griffe qui tourne sur ses gonds rouillés. Tout son poil se hérisse à la vue de son adversaire, et il brûle déjà de l'étreindre dans ses bras d'acier. Quant à Bristol, moins effrayant peut-être, mais d'une expression plus humaine, plus mâle, plus martiale, il se présente avec dignité, non en guerrier farouche altéré de sang, mais en rival généreux et prêt à combattre en véritable héros. Sa taille est colossale, il est vrai. Le jeu, l'insertion de ses muscles, la force élastique de ses jarrets, de ses reins charnus, de ses larges épaules, dont le moindre mouvement décèle un immense mécanisme de forces internes, donne la plus haute idée de ses facultés physiques. Mais, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un monstre effrayant comme l'autre boxeur. Et la beauté participe autant que la force à l'élégance de sa constitution. Suivant l'usage des lacédémoniens, nos deux jouteurs s'était macéré le corps de cosmétiques oléagineux afin de donner plus de souplesse et d'agilité à leurs mouvements d'attaque ou de retraite. À leur entrée dans l'arène, la salle retentit d'abord de longs applaudissements auxquels succéda un profond silence. Des valets de théâtre ayant apporté un buffet de quantités de viande de boucherie crue, des animaux vivants tels que moutons, chiens, dogues très gros, deux loups affreux achetés à la ménagerie et une douzaine de flacons de rhum, nos deux héros préludèrent par fraterniser en dévorant chacun 7 à 8 livres de viande sanglante. Puis, s'emparant des animaux, tandis qu'ils les tenaient étranglés dans leurs poignets de fer, ils s'amusèrent en souriant à leur briser le crâne de leurs propres dents et s'en humer la cervelle dégoûtante. L'Écossais, que nous nommerons dorénavant Nembrod, se plaisait particulièrement à arracher les entrailles du loup, dont il tenait les pattes très écartées, et à considérer les contorsions douloureuses de l'animal. Bristol seul parut répugné à plonger, comme son antagoniste, ses lèvres dans les flancs de ces animaux carnassiers, et ce fut l'Écossais qui sembla les mettre en pièces avec le plus de volupté. Ce repas épouvantable étant fini, ils vidèrent 10 bouteilles de liqueur forte entre deux, se portèrent mutuellement plusieurs toasts, dont l'avant-dernier fut « à la liberté des Anglais » et le dernier « à la victoire », et s'étant enfin séparés, suivant l'ordre des constables qui présidaient à ce spectacle, comme deux ennemis qui s'estiment, ils se disposèrent enfin à commencer le combat le plus intéressant qui ait peut-être eu lieu depuis celui des Horaces et des Curias, lorsque les armes durent décider du sort d'Alme et de Rome. D'abord, ce n'est que feinte, ruse de mouvement, pugilat droit et vif, tentative simulée et retraite prône de corps, où la souplesse du tigre se joint à la vigueur franche du lion. Les coups sont portés et quelquefois reçus, il est vrai, mais la prudence et l'étude des efforts en atténuent l'impétuosité. Et la circonspection modifie encore la rage, qui doit bientôt tout à fait l'étouffer. Le spectateur est oppressé. La respiration retenue, il redoute en secret le choc, l'approche de ces deux rochers vivants. Et il voit, avec un sentiment de terreur indicible, les premières vapeurs que la colère et l'amour de vaincre font exhaler du corps de ces deux athlètes formidables. Si c'est en boxant, les coups sourds retentissent sur l'estomac de Bristol, de l'Écossais, comme sous une voûte creuse. Si, tous deux enlacés dans les anneaux de leurs bras, ils se tiennent serrés et s'impriment les ongles dans la peau, le parquet crie, gémit sous leurs pieds convulsifs, et le poids énorme de ces monstres semble devoir bientôt l'enfoncer. Leur sueur ruisselle déjà avec leur sang. Leur chair meurtrie et au vif devient alors le point de mire des atteintes les plus douloureuses et leur rage est au comble. Quelquefois, immobiles sous l'effort mutuel d'une égale force, ils ne font plus le moindre mouvement jusqu'à ce que le secret trouvé d'un côté faible rompe cet équilibre effrayant. Cependant, bien que le sang coule de toutes parts, que les confusions affreuses attestent une valeur semblable des deux côtés, tous deux paraissent jusqu'alors d'une vigueur pareille, et c'est d'un dernier effort que va dépendre le triomphe. Le féroce Écossais le tenta le premier, cet effort incroyable, et soulevant son ennemi de toutes ses forces, il le tint élevé dans ses bras à une certaine hauteur, puis se précipitant à terre au milieu d'horribles hurlements avec Bristol, leur chute à tous deux fut aussi terrible qu'éclatante. Bristol avait le dessous, Bristol était donc vaincu. Le genou de son ennemi appuyé sur sa poitrine, le cou serré dans les tenailles de ses doigts et les bras tout à fait paralysés par la nature de sa position, Il dut s'avouer, terrassé, après quelques nouvelles tentatives impuissantes. Le pari gagné, le vainqueur proclamé, Bristol, guéri en peu de temps de ses blessures, se consola par d'autres succès. Jusqu'ici, ce n'est qu'un fier à bras, un gladiateur, terrible sans doute, mais qui n'a encore rien à démêler avec le ministère de Thémis. Il est temps de le placer sur le théâtre du meurtre, où ses goûts sanguinaires ne pouvaient manquer de le conduire. Nombre d'abus de confiance et même d'actes de scélératesse, effet inévitable d'un tel caractère, mais que le crédit des grands avait étouffé, en considération de sa réputation extraordinaire de boxeur, avait manqué claquemurer notre héros dans un bagne. S'étant donc aperçu que la police tenait désormais l'œil continuellement ouvert sur ses actions, Bristol part, ou plutôt s'enfuit, vers le comté de Nottingham. Et à Douai, petite ville enclavée dans une forêt fameuse et trop fertile en brigands, il prend la profession de boucher au moyen de quelque peu d'argent qui lui restait de Londres. Son commerce va d'abord assez bien. Ayant soin de masquer ses desseins criminels, il parvient en peu de temps à se faire une réputation d'honnête homme, extrêmement rude à la vérité et dans ses formes, mais ne manquant pas pour cela de probité. Il est maintenant nécessaire d'instruire le lecteur qu'à 3 lieues de Dowley, au passage de la forêt au plus périlleux pour les voyageurs, existait une auberge réputée pour être un repaire de brigands, mais dont le défaut de preuve n'avait pas encore permis de dévoiler les trames. Bristol s'y rendit, en fréquenta souvent le patron, lia amitié avec lui, et enfin, s'étant ouvert dans une dernière confidence, ils convinrent, le verre à la main, d'exercer de concert leur brigandage. Anna Weston, fort belle femme d'ailleurs et complice, dès le berceau des anciennes scélératesses de son père, le patron de l'auberge, devint le gage de cette affreuse alliance, et l'hymen cimenta ce pacte du crime. Bristol changea donc insensiblement ses garçons bouchers contre les assassins de profession qui avant étaient aux ordres de son beau-père. Et tous deux, dans une infâme émulation, se prêtèrent et le théâtre favorable et les instruments de leurs crimes. Ainsi, dans cet état de choses, jamais de temps immémorial de pareil fléau n'avait pesé sur la province. Chaque jour, chaque nuit, c'était quelque illustre étranger, quelque riche berline attaquée dans la forêt. La justice avait beau faire, aussitôt les perquisitions les plus actives, les victimes, les objets, les valeurs avaient disparu, comme sous la puissante baguette d'un génie infernal. Et des fosses profondes servant à enfouir les cadavres, Bristol et ses complices s'enrichissaient depuis plusieurs années au sein d'une impunité bien affligeante pour ces contrées. Heureusement que Dieu ne l'a permis pas très longtemps, ce que nous allons faire connaître en est la preuve. « Tout va jusqu'à présent à merveille, » dit un soir Bristol à sa femme. « Nous possédons plus de 8 000 guinées en or, effets ou pierreries. Ton père se voit également entre les mains de très grandes richesses. Nos hommes n'ont rien à désirer, et le partage s'est toujours fait loyalement. Encore ce coup, Anna, encore ce dernier coup magnifique, et nous serons puissamment riches, et nous pourrons... quittant ce comté, partirent tous pour l'étranger. Anna, charmée, se vit expliquer les avantages ainsi que les belles espérances de ce dernier coup si vanté. Bristol, allant donc fermer toutes les portes avec le plus grand soin et revenant près de sa femme avec un air de mystère, sortit une lettre de sa poche dans laquelle son beau-père l'instruisait par un message express que Milady Ellsworth, se rendant au poste à Nottingham dans un riche équipage, avec Miss Clarisse, sa fille, et seulement accompagné de quelques domestiques, il serait facile d'envahir cette belle proie. Milady devait passer, lui apprenait-on encore, dans la soirée même, de 11 heures à minuit. Après cette horrible communication que Bristol accompagna d'un sourire atroce, il apprêta ses poignards, ses pistolets, fit monter ses faux garçons bouchers et leur fit part de son entreprise en leur assignant en même temps leurs différents rôles et en fixant l'heure du départ. La joie brillait également dans les yeux de l'infâme Anna. Son imagination criminelle se repaissait déjà de la vue de toutes ces riches dépouilles de l'opulente Milady. Elle se parait d'avance de ses diamants, de ses robes chargées de broderies, et dans sa cupidité coupable, ne comptait pour rien que toutes ces dépouilles ne pourraient arriver entre ses mains impures que souillées d'un sang précieux et seulement à l'aide d'un horrible homicide. C'était en hiver et au mois de décembre, époque à laquelle la nuit s'empare des deux tiers de la journée. La neige tombait à flocons, mais loin qu'elle aidât le voyageur de sa clarté en tombant congelé sur la terre et sur la cime des arbres, elle se fondait aussitôt, rendait conséquemment les chemins plus difficiles et formait devant l'œil inquiet un rideau mobile plutôt propre à masquer les manœuvres d'un assassin qu'à les éclairer. « Ce temps nous est très propice, » dit Bristol à sa femme, en parlant avec ses infâmes auxiliaires et en déroulant ses armes sous un vaste manteau. « Ton père doit être déjà embusqué aux gorges. Pour nous, nous allons nous poster près de la morgue. » Anne referma mystérieusement la porte sur les bandits et leur recommanda surtout de ne pas faire comme avec le dernier voyageur, dont un des domestiques était parvenu à échapper au massacre général. Son premier soin fut de préparer un excellent repas, digne de la glorieuse expédition méditée. Mais, pendant qu'elle s'y dispose, on frappe à la porte. « Qui est-ce ? » « Sa petite nièce, Polly, âgée de 11 ans. » qui, après l'avoir informé que son dessein était de se rendre à Sutland, hameau distant de 2 lieues de là, l'a pris de consentir à ce qu'elle passe la nuit chez elle, attendu que le chemin qui lui reste à faire est encore trop long et qu'elle est partie trop tard de chez elle pour pouvoir l'achever dans la soirée. Anna, ne voyant aucun inconvénient à cette proposition, fit bon accueil à sa nièce, lui fit faire un bon souper et la coucha dans un cabinet voisin de son alcôve. Cependant, tandis que la Providence ménage les incidents les plus singuliers, le crime agit avec plus d'activité que jamais. Bristol, parvenu au défilé de la morgue avec ses gens, au point où le chemin de la forêt, se rétrécissant et devenant très montueux, rendait le passage aux voitures fort lent et fort difficile, attendait dans l'ombre le moment favorable à ses forfaits. Il avait d'ailleurs correspondu par des coups de sifflet méthodiques et connus avec les brigands de l'auberge, à la tête desquels son beau-père, posté aux gorges, avait exactement répondu par d'autres signaux d'argot de meurtre, dont le sens disait que tous ces scélérats étaient bien cachés dans les embuscades convenues. Ainsi, l'infortunée Milady Hereward, sa jeune et charmante fille Clarisse, destinée au milieu des horreurs de cette nuit à être les victimes de ces assassins, s'avançait, quoiqu'à pas lent, vers une mort qui paraît inévitable. Cependant, leur disposition d'esprit était bien différente. Et Milady, souriant, abandonnant sa pensée et ses sentiments maternels à des projets d'établissement, de mariage, sur Clarisse, était loin d'imaginer l'abîme sur lequel elles marchaient toutes deux. Mais Clarisse, affectée de douloureux pressentiments, n'avait pu se défendre du respect, de ce certain effroi qu'inspire la solitude silencieuse d'un bois réputé dangereux. La femme de chambre avait beau la rassurer sur ses visions, qu'elle ne mette enfantine, lui représenter que les deux domestiques armés qui étaient sur le siège de la berline étaient bien en état de les défendre, ainsi que les postillons. Ses craintes secrètes croissaient de minute en minute, et son esprit alarmé voyait des spectres, des scélérats embusqués, des fantômes dans chaque tronc d'arbre. Le croissant de la lune, les nuages, revêtaient de figures effrayantes à ses yeux prévenus. « Voyez donc, Milady, disait-elle à sa mère, cette pointe du croissant argenté, si on ne jurait pas y reconnaître la pointe aiguë d'un poignard. Et ces nues grises, ne figurent-elles pas des têtes de brigands, enveloppées de noires draperies, marchant mystérieusement dans les ombres ? Tenez, ma chère et tendre mère, ajoutait Clarisse, ne pouvant plus retenir ses larmes, nous avons été bien imprudents de ne pas faire cas de toutes les aventures qu'on nous a racontées sur cette dangereuse forêt. » En cet instant même, la fatale berline se trouvait investie de toutes parts, ayant dépassé les gorges et se dirigeant vers le point de la morgue. En cet instant, dis-je, plus de retraite. Et quoique Milady n'attribuât les terreurs de Clarisse qu'à la faiblesse naturelle à son âge et à son sexe, cependant, l'arrêt de la mort de ces deux intéressantes créatures était prononcé et semblait irrévocable. L'équipage, embarrassé dans des ornières profondes et fangeuses, allait plus lentement que jamais, d'autant plus qu'il ne laissait pas de monter. Le plus profond silence régnait de toutes parts. Et si ce n'était le cri sinistre de quelques oiseaux, hôte nocturne des bois, rien ne troublait ces lieux affreux, favorables au crime. La neige avait cessé de tomber, mais des nuages énormes, chassés avec violence du nord vers l'ouest, variaient les effets de lumière d'une manière effrayante, et une obscurité totale aurait causé moins d'effroi que ces clartés accidentelles, interrompues, qui produisaient sur le prisme de l'imagination une sorte de fantasmagorie épouvantable. Clarisse, la pauvre Clarisse, était plus tremblante que jamais. Serrée contre sa mère, le sein douloureusement oppressé, la respiration arrêtée, elle semblait placée sous un glaive suspendu dont le plus léger souffle peut rompre le fil qui l'attache. Ses yeux fixes cherchaient à saisir le plus petit motif de croire au danger pour avertir aussitôt les domestiques de se défendre. Elle se rappelait avec une exactitude pénible toutes ces histoires lamentables de brigands qui l'avaient tellement épouvantée dans son enfance. « La mort m'effraierait peu, » se disait-elle, comme se résignant aux plus affreuses destinées, « mais le déshonneur, mais ma personne profanée par des mains souillées d'opprobre. » Cette idée remplissait son âme d'un deuil horrible. Ne bordant pas là ses conjectures affreuses dans cette cruelle perspective, elle voyait sa mère adorée, encore dans tout l'éclat de sa beauté, nageant dans son sang, dépouillée de ses derniers vêtements, au sein d'une caverne horrible. Et toutes ces images achevaient de la plonger dans des transes mortelles. L'esprit de Clarisse s'était tellement rempli de ses pressentiments qu'ayant rencontré les mains de Milady et les ayant senties très froides, elle ne put retenir un cri, persuadée qu'elles étaient déjà mouillées de son sang, si précieux à son amour filial. L'équipage avançait lentement, et cette lenteur le faisait péniblement ressembler à un convoi funèbre. Ce fut Milady qui, la première, aperçut, dans l'épaisseur des ombres, passé derrière un gros tronc d'arbre, un homme courbé en deux, qui, une espingole sous son manteau, lui parut se concerter avec un autre de ses complices, également blotti à l'abri d'un arbre. Elle ne put alors s'empêcher de tressaillir, et sa main, se trouvant dans celle de Clarisse, elle la serra vivement, quoique involontairement, Qu'avez-vous, ma mère ? S'écria celle-ci. Auriez-vous vu des assassins ? Point du tout, répondit Milady, dissimulant le mieux qu'elle put son trouble. Mais la roue a fait un mouvement, et n'ai pas été maîtresse de ma peur. Pendant cette excuse feinte, Clarisse, de son côté, vit également, sur un léger arbrisseau chargé de neige, la réfraction de l'ombre d'un homme qui semblait prendre ses dispositions. Et par une délicatesse filiale, Clarisse, craignant aussi d'affecter sa maman, elle l'imita dans sa touchante dissimulation. Et elle ne put cependant s'empêcher de faire remarquer à Milady qu'elle toucherait bientôt au point que le maître des postes leur avait indiqué comme très périlleux. L'auberge était dépassée d'une centaine de pas, et on n'y entrevoyait plus à travers les arbres qu'une faible lumière qui semblait dans ses mouvements d'intelligence avec le crime. Enfin, le danger n'est que trop certain. Les domestiques placés sur le siège, épouvantés à la vue soudaine d'une troupe de scélérats qui fondent simultanément sur eux, les premiers jettent des cris perçants en déchargeant leurs pistolets à bout portant sur les assassins. Des coups de sifflet partent du poing de la morgue pour que l'arrière-bande des gorges ait à donner en même temps. Les postillons sont tombés sous les coups de 20 balles éparpillés des espingoles. Les valets ont roulé à bas du siège, et l'arme blanche achève de les égorger. C'est à vous maintenant, ange céleste, que nous devons consacrer toute l'énergie, toute la sensibilité de notre plume, pour peindre votre affreux désespoir, vos angoisses mortelles, vos cris déchirants au milieu de ce théâtre de meurtre et de carnage. Quel lecteur ne voudrait pouvoir opérer un miracle en votre faveur et vous tirer de cet abîme? Inutile vœu, il faut pleurer sur votre perte, elle est jurée. Clarisse, échevelée, éperdue, suffoquée dans sa douleur, avait lié ses bras autour de la taille de sa tendre mère, et les yeux tournés vers le ciel, elle ne lui demandait que la faveur de mourir avant cette mère adorée. Milady, de son côté, rassemblant toutes ses forces pour tâcher de sauver encore sa fille au milieu de ce désastre, la couvrait de son corps. Et le sein appuyé sur son sein ne permet aucun passage au fer des homicides. Ce fut l'horrible Bristol qui, mettant trêve au tâtonnement des autres meurtriers, plongea un long couteau dans le flanc de l'illustre voyageuse et, arrachant de ses bras mourants l'infortunée Clarisse, entièrement évanouie, la fit transporter au milieu de la morgue, qui était un lieu affreux de dépouilles et de sépultures aux nombreuses victimes de la forêt. Une torche enfoncée dans la terre éclairait cet horrible séjour. C'est donc là que se voit plongée la beauté la plus intéressante. Et son lit, le siège sur lequel elle languit, n'est qu'un morceau infect de cadavres mutilés et roidis par la mort. Que le lecteur cesse de s'affliger, Clarisse n'a plus rien à craindre. Clarisse dort du sommeil éternel, du sommeil des anges. Dieu lui a envoyé des ailes, et perçant les voûtes ténébreuses de ce repère, elle est déjà parmi les divinités du martyr. Pour comble de bonheur, elle a aussitôt retrouvé sa mère, qu'elle serre de nouveau dans ses bras, pour n'en être jamais séparée. Bristol, à la vue de tant d'appâts, sentit se glisser dans son cœur, parmi tous ses crimes, une idée de luxure dont le beau désordre de Clarisse fut la cause. Il cherche donc à la rappeler à la vie. En vain, les autres brigands lui font observer qu'il ne faut rien, absolument rien, laisser survivre à l'expédition, que c'est l'ordre même qu'il a donné. Bristol n'en persiste pas moins dans le dessein de faire sortir Clarisse de ce sommeil éternel qu'il croit n'être qu'un long évanouissement. Après, a-t-il l'infamie de répondre à ces scélérats. Ainsi le monstre eut la barbarie d'épouser la mort dans ses horribles étreintes. Et si l'âme de Clarisse monta vierge vers les cieux, sa dépouille fut souillée des morsures du plus affreux des reptiles. De là, retournant à la berline, Bristol la fit conduire à l'auberge. On releva tous les cadavres, on les déshabilla, on les ensevelit dans les caveaux de la morgue, on démonta pièce par pièce l'équipage, on partagea l'or, les malles, les pierreries, et il ne resta sur ce théâtre de forfait que les flots de sang qui y avaient ruisselé dans la fange. Bristol était impatient de revoir sa femme, tout fier de son criminel triomphe. Ayant donc rassemblé ses prétendus garçons bouchers, il leur ordonna de se préparer à retourner avec lui à Dowley. Il pouvait être alors 1h30 du matin. Anna les attendait avec une vive impatience. Ayant donc entendu quelques mouvements à la porte d'en bas, le cœur palpitant de plaisir, elle y court et y reconnaît effectivement son mari. Celui-ci, dans l'ivresse du crime, dans l'ivresse de sa joie, monte rapidement l'escalier, tout en racontant à haute voix les succès complets de la nuit. Les autres brigands le suivent. On referme les portes. Bristol, glorieux du résultat de l'expédition, jette sur la table avec fracas 100 rouleaux de guinée, des écrins de superbes diamants, les bagues même de l'infortunée Milady, le portrait de sa fille encore trempé de sang, son linge le plus secret. Dans l'effusion de ce contentement, il avait imprudemment révélé les plus petits détails de ses nombreux assassinats, et le crime s'était lui-même trahi quand Anna, venant à froncer le sourcil, s'écria « Malheureuse, qu'ai-je fait ? Bristol, ta nièce m'a demandé à passer la nuit ici. Elle aura tout entendu. Et nous sommes perdus, si... » Pour toute réponse, l'infâme Bristol, repliant toutes les rides de son front affreux, s'empare de la lampe et tirant un poignet de sa ceinture, « Si je puis douter un instant qu'elle dorme, » dit-il à voix basse, « c'en est fait d'elle. Notre salut commun nous ordonne de la sacrifier. » Quelle est l'épouvantable situation de la pauvre petite Polly, qui en effet a tout vu, tout entendu, réveillée au sortir de son premier sommeil par le bruit qu'avaient fait à leur entrée les brigands. Cependant, l'infortunée, sentant aussitôt que de l'adresse de sa dissimulation va dépendre sa vie, elle feint de suite de dormir du plus profond sommeil. En vain, le gigantesque, le monstrueux Bristol approche de son lit, le cou tendu, un fer étincelant à la main. Vainement, il passe la lueur d'une lampe effrayante sur son visage assoupi, et malgré toute la douleur aiguë d'une goutte d'huile brûlante qui tombe sur son épaule demi-nue, Pauline ne se trouble pas. Sa respiration reste toujours naturelle. Sa bouche demi-close respire toute l'innocence de son âge, et quelque génie céleste lui a pris sans doute dans cet instant de terreur par quel art on fait tomber un grand criminel dans le piège creusé de ses propres mains. Bristol, ravi et complètement dupe, y retourna vers la bande, en assurant Anna que ce serait un sang inutile, puisqu'il était parfaitement convaincu que Pauline avait cessé de sommeiller. Les brigands, s'étant donc repus de vin et de nourriture, chacun alla se coucher en se félicitant comme d'une bonne action de la bonne fortune de ce jour. Le lendemain matin, Polly se leva de bonne heure et, sans affectation, mettant son déjeuner dans sa poche, elle embrassa sa tante, la chargea de bien des compliments pour son oncle, qui dormait encore, et parut se diriger vers le chemin qui conduisait au hameau dont elle avait parlé. Mais lorsque cette petite héroïne se fut assurée que personne ne l'avait observée, elle retourna avec effroi par une autre rue dans la ville, et se faisant indiquer la demeure du constable, elle lui déclara, en pâlissant mille fois de l'affreux danger qu'elle avait couru sous la pointe prête à frapper du poignard de Bristol, que son oncle était un chef de brigands, et que dans la nuit même, elle l'avait vu, les mains encore sanglantes, partager avec ses complices et sa femme les dépouilles de plusieurs personnes assassinées. Le constable, stupéfait, eut peine à croire à tant d'atrocités. Cependant, il fit son devoir, et sur les indices de cet enfant, après avoir assemblé un grand nombre de sbires bien armés, qui s'étaient munis de fortes chaînes et de cordes, on investit et l'auberge de la forêt et la maison du boucher anglais. L'argent, les bijoux, tous les vêtements qu'on y trouva, ne permirent aucun doute dans l'instruction rapide du procès. Cette troupe d'assassins fut donc immolée à la vengeance des lois, et ils perdirent sur l'échafaud une vie qu'ils avaient souillée de tant de crimes. Anna et Bristol furent exécutés les derniers, comme paraissant les plus scélérats. Et Bristol, comme il l'avait dit plusieurs fois en plein tribunal à sa nièce, qui fut confrontée dans le cours de la procédure, s'écriait souvent « Ah, petite scélérate, si j'avais pu me douter un instant que tu ne dormais pas !»